Philippe Vandel est de retour avec sa série des Pourquoi pour répondre à toutes vos questions sur les Jeux Olympiques.
Il y en a tellement. Pourquoi un joueur de foot ne peut pas retirer son maillot pour célébrer un but? Pourquoi l'équitation est-elle la seule épreuve mixte des Jeux Olympiques? Et d'ailleurs, pourquoi certains sports sont-ils olympiques et pas d'autres? Des questions évidentes, mais des réponses étonnantes. Plongez avec moi dans l'univers fascinant des Jeux Olympiques et du sport.
Les Pourquoi des Jeux Olympiques, un livre surprenant de Philippe Vandel, aux éditions Kerrow.
Vous écoutez
RMC. RMC, 9h midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
11h07, nous sommes de retour dans les grandes gueules du sport jusqu'à midi. Merci beaucoup de votre fidélité. Si vous voulez réagir à cette émission, vous composez le 32-16 dans 40 minutes maintenant. Ce sera à votre tour de jouer et de répondre à une GG de venir lui expliquer la vie. Les GG ce matin, Marion Bartoli, Christophe Cessieux, Marc Madiot, Simon Dutin dans quelques instants, un bras de fer des GG. Autour des ultimatums posés à un entraîneur, il y aura une team choquée, une team pas choquée. Et puis 11h30, c'était mieux avant, le moment d'histoire raconté par Christophe Cessieux. Aujourd'hui, pour célébrer l'anniversaire de notre GG qui est avec nous ce matin, Marion Bartoli, nous reviendrons sur ce 6 juillet 2013 qui l'a fait entrer dans l'histoire du tennis français.
C'est un ace ! Marion Bartoli ne croit pas ses yeux, elle remporte Wimbledon ! Marion Bartoli remporte le tournoi de sa vie.
Moment d'émotion avec Christophe Cessieux à partir de 11h30.
Elle est rentrée dans l'histoire quand même, Marion. Ça va faire bizarre quand même, hein, d'être dans les livres d'histoire, non? Ça
c'est clair.
Ça fait drôle, Marion.
Ouais, non, c'est trop d'éloges, c'est trop d'éloges.
Tu penses qu'on sera, nous, Christophe, dans les livres d'histoire?
Je suis bien avec vous tous les dimanches matin. Ça me suffit largement, tu sais.
Un petit livre Brunet, quoi. Un petit livre Brunet d'histoire, ça peut être sympa pour nous. Voilà, en tout cas, les stars, évidemment, nous les avons avec nous. Marc Madiot avec Marion Bartoli. Et puis Fabio Quartararo, où en est notre pilote français? C'est le Grand Prix de Thaïlande, Paul Lafitte.
C'est un scénario catastrophe pour le championnat mondial en titre, Fabio Quartararo, qui est 18e de cette course.
Une course menée
par Jack Miller, devant Marco Bezzecchi, la troisième position pour Pecco Bagnaia, qui reviendrait à 2 points du pilote français si ce Grand Prix en restait là. Évidemment, il reste 19 tours à couvrir, mais c'est vraiment une très très mauvaise opération à venir pour le pilote Yamaha. Donc 18e de cette course, à noter la 8e place pour l'instant de Johan Zarco. Il reste, j'y sais, 19 tours à couvrir ici en Thaïlande à Buriram.
Avant-dernier pour Fabio Quartararo. Tararo, évidemment, nous allons suivre sa course.
C'est un moment. Que c'était un tournant la semaine dernière.
Très important. On se posait la question de savoir si c'est un tournant. C'est pas parce qu'on se pose la question que je suis en étant au final. Mais
voilà. Il n'est pas passé.
Mais oui. Chatouilleux, Christophe.
Exactement. Oui. Il aime bien remettre en cause l'éditorial de cette émission, produite magnifiquement par des Américains. C'est fou quand même.
Bon. United States of America.
Sorry, but I don't understand. Les artistes entrent dans l'arène. Ça aussi, c'est une production américaine. Écoutez cette musique, ce tempo. Ce n'était certainement pas une trêve internationale comme les autres pour l'entraîneur de Lyon, Peter Boss. Alors que les Lyonnais retrouvent la Ligue 1 ce soir à Lens. Leur coach est sous pression après 3 matchs perdus de suite. Sous la pression de quoi? D'un ultimatum. Selon nos informations, le Néerlandais a une mission. Inscrire 17 points avant la trêve Coupe du Monde. 17 points en 7 journées. Faites vos calculs. Lyon a aussi 13 points. En clair, si l'OL n'a pas 30 points d'ici au Mondial, Peter Boss pourrait prendre la sortie. Il le sait, il en est conscient de cette pression. Peter Boss, hier.
Moi, je suis une personne toujours positive. Et en plus, moi, je suis quelqu'un, j'ai pas peur de dire ça, je suis aussi réaliste. Donc, si on joue pas bien, on joue bien, à part du résultat. Mais finalement, les résultats sont les plus importants. Donc, on a besoin des résultats, c'est clair.
Le club a besoin de résultats et le club a démenti avoir prononcé un ultimatum à l'encontre de son entraîneur. Dans le coin gauche, sur les ultimatums, il y a une team choquée. Marion Bartoli, Christophe Cessieux. Une team pas choquée. Marc Madiot, Simon Dutin. C'est parti pour le bras de fer des GG.
À votre avis, c'est qui le plus fort, l'hippopotame ou l'éléphant?
RMC.
Les grandes gueules du sport.
Le bras de fer GG.
Vraiment, t'es sûr que l'éléphant il est plus fort que l'hippopotame?
La tension est à son comble et on n'est pas sûr, évidemment, que l'éléphant soit plus fort que l'hippopotame. Team choqué, team pas choqué, vous êtes nombreux déjà à avoir voté sur le compte Twitter des Grandes Gueules du Sport. Team Choqué pour l'instant, aïe aïe aïe, il n'y a pas match. Team Choqué 32%. Team pas choqué, 68%.
Et oui.
Christophe, on va galérer. Ouais,
ouais, Christophe Cessieux, Marion Bartoli.
Le but, c'est de reprendre un point, Marion. Et on aura gagné.
Ne perdez pas de vue l'objectif. Vous pouvez le faire. Marion Bartoli, pourquoi choqué? Tu commences.
Bah, choqué parce qu'en fait, l'avenir de Peter Bosch, ça fait un moment qu'il est scellé. Quand on reprend les déclarations de Vincent Ponceau, on voit très bien que la pression sur l'entraîneur, elle était mise sur lui depuis pas mal de semaines maintenant, et que c'est juste une escalade. Alors après, on lui demande de réaliser quelque chose qui est quasiment impossible. Prendre 17 points sur 21 avec le calendrier qu'ils ont, les équipes qu'ils ont affrontées, ça commence ce soir avec Lens. Lens qui est invaincu depuis avril dernier. Tu te déplaces à Bollard, c'est extrêmement compliqué en ce moment. Tu te déplaces à Rennes, à Montpellier, à l'OM. Alors même si sur l'OM, alors j'aime pas le rappeler, mais effectivement l'OM réussit plutôt pas mal à Lyon, mais tu lui demandes quelque chose de quasiment impossible. Donc en fait son sort est déjà scellé, sauf que tu lui donnes une micro chance qui n'en est pas une. Donc tu le mets quasiment en préavis licenciement. Et quand tu regardes le recrutement qui a été fait, ça pose quand même pas mal de questions au niveau Lyon, surtout en termes de défense centrale. Tu mets Thiago Mendes qui est en défenseur central, c'est pas du tout son poste de prédilection, donc il y a quand même des problèmes dans l'effectif, il y a des problèmes de jeu, et tu remets systématiquement la faute sur l'entraîneur. Et encore une fois, moi ce qui me pose problème dans cet ultimatum, c'est pas de virer un coach. Limite, dans les clubs de foot, on sait très bien qu'on va pas virer l'effectif des joueurs, on va virer tout le temps le coach, mais c'est la manière dont c'est fait. C'est-à-dire que tu apparemment tu lui donnes une chance alors qu'en fait il en a aucune. C'est ça qui me dérange le plus dans la manière que Lyon a de fonctionner. Et là, maintenant, tu te dédouanes en disant non, mais on lui met pas d'ultimatum. Alors que, bien évidemment, tu as déjà pris ta décision et tu commences déjà à préparer la trêve de la Coupe du Monde pour pouvoir choisir un autre entraîneur qui va pouvoir travailler pendant la trêve de la Coupe du Monde et qui a un calendrier beaucoup plus clément lorsque tu reviens de la Coupe du Monde.
Okay.
Donc, tu vas pouvoir mettre le nouvel entraîneur tranquillement sur ses rails. Donc, en fait, tu as déjà cloué au pilori Peter Bosch, mais sauf que dans la presse, en tout cas, tu ne l'annonces pas comme ça. Donc, oui, ça me dérange. La manière, en fait, me dérange profondément.
Marion est choqué, pas vous les copains, non. Vous pouvez lui répondre. Marc Madiot, pourquoi?
Non, tout simplement parce que l'ultimatum commence dès la signature du contrat. Le jour où l'entraîneur signe son contrat, il sait qu'il est dans un compte à rebours qui fait qu'un jour ou l'autre, il partira. Après, pour situer les événements, l'entraîneur, il est à l'hôtel ou il a une maison ou une location?
Bah, il a un peu des deux. Enfin, au début, il commence à l'hôtel. Et,
oui, alors. Et il y a combien de temps qu'il est arrivé?
Bah, ça fait un an et demi.
15 mois.
Ouais, il est toujours à l'hôtel?
Non, moi, je connais pas la vie particulière.
Non, mais s'il est toujours à l'hôtel, il sait qu'il va partir pas longtemps après. Vous savez, dans le monde des entraîneurs, c'est ce qui se dit.
Non, mais t'es le seul entraîneur au monde où t'as un poste. Toi, t'es là depuis 30 ans, mais il y a que dans le vélo qu'on voit ça.
Ah,
on sait quoi.
Oui, mais il a qu'à faire vélo.
Non, mais toi, t'as signé un CDI à Vita.
Arteta, Arsenal, on a laissé bosser.
Non,
Arsenal, on a laissé bosser. Klopp à Liverpool, on a laissé bosser.
Détrompe-toi. Je n'ai pas signé un CDI. Je suis en CDD depuis 40 ans.
En CDD depuis 40 ans.
Depuis 45
ans. Mais tu sais que c'est illégal, ça, d'avoir un nombre de CDD.
Mais je n'ai fait que des CDD toute ma carrière de coureur. Je n'ai fait que des CDD pendant toute ma carrière de coureur. Et je ne fais des CDD depuis que je suis manager.
Donc toi, tu l'assumes. C'est-à-dire que
je l'assume.
Toi aussi, tu peux jouer.
Mais évidemment que les footballeurs et les entraîneurs l'assument aussi. Ils savent bien qu'ils sont signés. Quand tu signes, t'es sur un siège éjectable. Donc, quel est l'intérêt de la part d'un club d'aller te mettre un ultimatum, de mettre la pression comme ça en disant.
La pression est là tous les jours. Zéro. Avec Dortmund, il n'a pas gagné de titre. Avec l'Ajax Amsterdam, il n'a pas gagné de titre. Avec Leverkusen, il n'a pas gagné de titre. Il a entraîné le plus grand club d'Israël, Maccabi Tel Aviv, il n'a pas gagné de titre. C'est très bien que tu prends un entraîneur au départ qui n'a pas gagné de titre.
Ok.
Donc, tu choisis aussi ton casting. T'as pas pris Pep Guardiola?
Oui, mais tu parlais de la confiance. Pas, en fait. Lyon n'est pas habitué à donner autant sa confiance à un entraîneur que Peter Bosch.
C'est que le dernier exemple. De toute façon, Lyon, les entraîneurs à Lyon et le président ne savent plus faire gagner des choses à Lyon. Quoi. Ça fait des années qu'ils ont pu gagner un titre. Alors, ils changent d'entraîneur régulièrement, tous les ans, tous les deux ans. Ils les virent, ils leur filent un énorme chèque. Mais mettre des ultimatums, ça sert à rien. De toute façon, je suis choqué par le fait de mettre des ultimatums.
Mais l'ultimatum, il est déjà présent.
Il est présent, il est dans l'air.
Il est permanent.
Mais alors, ça sert à quoi rajouté.
Ça sert à quoi d'en rajouter?
Mais il ne rajoute pas, ils le savent.
C'est
une expression, c'est une phrase qui est mise sur la table. Ils savent tous la règle du jeu. Ils finissent, ils connaissent tous la règle du jeu.
À la fin du mois, mon gars, si tu n'as pas 3 points, tu dégages. Tu crois que ça va faire mieux jouer? Tu crois qu'il va. Pour la confiance? Alors ça sert à quoi? Ça sert à rien, ça me choque, c'est débile. Ça sert à rien.
Je suis complètement d'accord avec toi.
Et c'est la réalité du terrain.
Bah, je suis effaré par la naïveté de mes adversaires, mais je suis pas non plus très étonné. Marc l'a bien dit, c'est un métier où les mecs, tu restes quoi en contrat 1, 2, 3, 4 ans. Effectivement.
Ouais, enfin, entre 1, 2, 3, 4 ans,
la direction, évidemment, elle a démenti parce qu'évidemment, c'est pas très vendeur de dire, effectivement, de fixer un ultimatum à son entraîneur, mais effectivement, il est pas né de la dernière pluie, Peter Bosz. Il vient de l'Ajax, hein, le mec. Il vient pas il entraînait pas les cadets de Belin-Belier, là. Il connaît son métier, il sait très bien, il a raté sa première saison. Ce qui est étonnant et pas choquant, c'est qu'effectivement, à partir du moment où tu renouvelles ta confiance malgré une première saison très très en dessous de tes espérances, c'est que si tu repars avec lui, bah tu lui laisses au moins la saison, d'autant plus que tu décides de renouveler un petit peu la culture du club en réinjectant le fameux ADN OL. Mais effectivement, rien de nouveau là-dedans. Le mec, il sait très bien, il entraîne Lyon, il sait qu'il a une obligation de résultat, que Lyon, pour la première fois,
mais tu crois que c'est que tu peux bosser de manière sereine quand tu sais que derrière on est en train de te chercher un successeur. On est en train de te mettre la pression. Rappelle-toi ce qui s'est passé avec Ancelotti au Paris Saint-Germain. Ancelotti, il a prend par la presse ou par des gens bien informés qu'on lui cherche peut-être un successeur. On lui met la pression. Et qu'est-ce qu'il fait, Ancelotti? Il dit ah, vous voulez assez comme ça?
Eh ben, oui, mais gars, lui, il est capable de le faire.
Je me casse. Tiens, les gars, tiens, Paris, tiens, le Bellagio, je vais gagner des titres. D'ailleurs, un vrai club qui sait gagner des titres. Vous m'avez mis la pression, allez vous faire voir. Eh ben, moi, j'espère que Bosz, il va leur faire ça.
Je pense que
là, c'est sa bande.
Ouais, sauf que c'est pas Ancelotti et qu'il ne risque pas de recevoir une proposition du Real Madrid derrière.
Ça commence à prendre l'eau.
La question, c'est de savoir si on est choqué ou pas choqué. Non, on n'est pas choqué parce qu'on sait que ça existe et que là, visiblement, c'est sorti dans la presse. Le club s'est empressé de sortir l'extincteur en disant non, pas du tout, pas d'ultimatum.
Mais qu'on te fixe des objectifs, d'accord.
Mais c'est pas parce que ça sort pas dans la presse, Christophe, que des ultimatums, il n'y en a pas dans les couloirs de tous les clubs.
On te fixe des objectifs, je suis entièrement d'accord en disant voilà, à la fin de la saison, si t'as pas obtenu ça, si t'as pas de titre. Tu dégages. Ok, pas de souci. Mais là, parce qu'on a, t'as 3 défaites d'affilée. Il faut un nombre de points comme ça à la rentrée ou à la sortie des vacances. Non, c'est ridicule.
Et une finie, c'est toujours cette situation-là.
Non, mais en plus, tu fais jouer un joueur à un poste qui est même pas son poste.
Quand
t'es entraîneur,
tu sais avant de commencer.
Attention, je reprends la main quelques instants, les copains. C'est la pause de ce bras de fer des grandes gueules du sport. Vous allez pouvoir vous expliquer encore, affûter les arguments. Sachez pour l'instant, Fabio Quartararo, juste une précision, est dernier.
Tu es choqué?
Il est 18e. Ça, c'est choquant aussi, je suis d'accord. On retrouvera Paul Lafitte dans quelques instants. On va voir si le camp des choqués a convaincu, tente de convaincre. On était à 68-32, 68 pas choqués de ces ultimatums. Nous sommes à 67-33. Pour l'instant, vous gagnez du terrain, Christophe Cessieux.
Il y a du chemin à faire.
Marc Madio, juste vous donner une précision, car je vous donnais un nombre de points, 17 points à grappiller d'ici la trêve pour la Coupe du Monde. 17 points donc sur 7 journées, donc sur 21. Il ne faut pas se rater. Marion l'a dit, le calendrier. Il y a Lens, il y a Rennes, il y a Lille, il y a Marseille, il y a Nice. Rendez-vous compte dans ces matchs. Est-ce que les pas choqués... C'est limite impossible en fait.
Mais non, mais je peux réutiliser les arguments de Marion pour mon camp. Non, c'est pas choquant parce qu'effectivement, encore une fois, Bosz, tu le reconduis après une saison minable, en tout cas au regard des standards de l'OL, et tu lui dis bon ben vas-y, on renouvelle la confiance. Tu nous fais une deuxième saison. Et au bout de 8 matchs, on dit attention gros, par contre si tu nous fais pas 7 victoires sur 8 ou 6 victoires sur 7, t'es viré. Mais il est pas stupide le mec. Donc en fait, c'est l'OL qui se prépare à effectivement sortir le parapluie en disant non mais attendez, on lui a laissé une chance, on y est retourné avec lui et effectivement, on lui a donné un objectif, cet objectif il ne l'a pas atteint. Donc du coup, on est obligé de s'en séparer. Donc non, c'est de la com, c'est une façon de préparer effectivement l'après. On n'oublie pas que tu sais la vente à la passation de pouvoir à l'Olympique Lyonnais, elle a été repoussée.
Ouais, encore repoussée en fin de semaine,
fin octobre et du coup, ça va correspondre à peu près à la prise de compte contrôle des nouveaux investisseurs. Donc en fait, il se laisse une porte de sortie au moment de... Il vous plaît pas notre gars. Bon, bah écoutez, on lui avait donné un objectif, il l'a pas rempli. Maintenant, vous prenez la main, vous faites comme vous voulez. Nous, on l'avait prévenu. Et c'est déjà, ils sont déjà dans la com, je pense.
Ouais. Mario, la réponse, et après Marc Madiot. Rapidement, les copains.
Simon Bosch, quand il a commencé sa saison, il a bien débuté. En fait, tout est venu de 3 défaites d'affilée. Tu perds sur le PSG, tu perds sur Monaco en faisant nettement un très bon match. Et sur un troisième,
Lorient, c'est un match en retard.
À Lorient, oui. Donc, en fait, tout est parti de là. Et là, maintenant, tu fixes un objectif qui est irréalisable. Tu mets un joueur, tu mets Thiago Mendes à un poste qui n'est pas le sien. Je ne sais pas si tu te rends compte. Tu vois très bien que le gars, il est mal à l'aise comme je ne sais pas quoi. Alors que tu as Jason Denayer l'année dernière, que tu ne renouvelles pas, qui a 27 ans, tu le laisses partir pour aller signer à Dubaï. Donc, déjà, je n'ai pas compris. Qui est quand même plus fort que Thiago Mendes, qui en plus ne joue pas à son poste. Tu as malheureusement Boateng qui est blessé. Donc, effectivement, tu te retrouves à devoir mettre un joueur à un poste qui n'est pas le sien. Et tu demandes à l'entraîneur de faire un score qui est, et un nombre de points qui est irréalisable. Donc en fait, tu lui demandes quelque chose qui n'est pas possible. Donc dis-lui directement, mais on va te virer. Mais commence pas à vouloir dire, ah ben non, mais on lui fixe un nombre de points, mais non, on ne veut pas le virer, mais non, mais on lui laisse une chance. Non, tu lui as laissé aucune chance. Donc tu as décidé depuis longtemps, tu le sais que tu vas faire ça, et juste pour la presse, essaye de mettre un parapluie en disant, ben oui, effectivement, on ne lui met pas d'ultimatum, ah maintenant on est gentil avec lui. Ben non, je suis désolée. Si Gioninho s'est barré de l'OL, c'est qu'à un moment donné, le navire, il prend l'eau complètement. Donc ils sont en train de prendre mauvaise décision après mauvaise décision. Ils essayent de s'en sortir comme ils peuvent. Non, je suis désolée, non.
Marc Madiot.
C'est la vie et c'est le métier d'entraîneur de savoir et de connaître les situations en arrivant dans le club. Souvent, les entraîneurs, en quelques jours ou semaines, savent pertinemment pour combien de temps ils sont là. Pertinemment.
Ça n'a pas d'effet sur toi si on te dit écoute Marc, t'as 4 courses, faut que t'en gagnes 2. Sinon,
ben oui, mais ça fait partie du jeu. Bon, ça fonctionne pas comme ça dans le vélo. Mais l'entraîneur de foot est formaté à cette situation. Ils le savent tous. Et il faut quand même aussi, pour atténuer la situation...
On t'a déjà mis des ultimatums, toi. Est-ce que
on n'est pas dans le même système. On n'est pas dans le même système.
Un entraîneur de foot,
il signe un contrat. Il sait que s'il ne va pas jusqu'au terme de son contrat, il va toucher le chèque.
Ouais. Et si, ouais, alors voilà, que toi, donc, ouais. Voilà, toi la par exemple, est-ce que la FDJ est jamais venue te voir en disant, Marc, ce serait bien qu'on ait des résultats sur ce Tour de France, parce que le Tour de France,
bien sûr,
évidemment, le truc le plus important.
Heureusement, ça montre l'intérêt du partenaire.
Mais ils t'ont jamais mis l'ultimatum en disant, on va te virer si Thibaut Pinot
t'arrive pas sur le podium. On a dit, il nous faut
mais
des,
voilà,
nous
mais
faut,
là, en l'occurrence, c'est ce qu'on fait à Boss.
La différence,
quand
c'est
tu
que.
Tu travailles en harmonie avec, oui, avec ton sponsor. Sûr.
Oui, mais on n'est pas sur le même modèle de fonctionnement. On n'est pas sur le même modèle de fonctionnement. En foot, ouais, t'es entraîneur, t'as un contrat avec une durée précisée.
Et si tu vas pas au terme du contrat, tu touches la monnaie. Qui soit appliqué dans le vélo. On n'a qu'à appliquer ça dans le vélo.
Non, je suis pas favorable à la mise en place de ce système. Et pour les managers. Et pour les coureurs, un coureur, il signe un contrat à durée déterminée, on va au terme du contrat à durée déterminée. Okay. Ça évite les situations pourries qu'on évoque.
Faisons ça en foot aussi.
Et tous les entraîneurs dans le tennis qui ont réussi sont sur le long terme. Il n'y a aucun entraîneur qui est viré au bout d'un an ou au bout de 6 mois parce que ça disant la joueuse ou le joueur n'a pas de résultat, que ça a fonctionné. Ça n'a jamais fonctionné. Ce sont uniquement des relations sur le long terme qui peuvent fonctionner parce qu'il y a une certaine confiance qui doit s'installer. Tu vas pouvoir travailler avec tes joueurs. Je suis désolée.
Ok, les copains, vous avez pu exprimer vos arguments dans ce bras de fer ce dimanche matin. Ah, c'est parti mignon. Et puis vous avez musclé votre jeu petit à petit. En tout cas, vous êtes resté sur vos positions, évidemment. Nous sommes partis avec 68% pour vous, hein, les auditeurs internautes sur le compte Twitter des Grandes Gueules du Sport. 68%, pas choqué. Vous étiez dans le camp de Simon Dutin, de Marc Madiot. Sachez que vous avez réussi, Christophe Cessieux,
oui,
Marion Bartoli a renverser un peu la tendance. Mais c'est tout de même une victoire, évidemment, de la team pas choquée. 67%
non, c'est pas une victoire
au
de
final.
La team pas choquée.
33% pour les autres.
Ils ont réussi à limiter les dégâts,
mais ils ont battu.
Excuse-moi, un malheureux petit point. On va pas s'arrêter à ça.
Ok, bravo en tout cas, les copains.
Je suis à 4 victoires sur 4, quand même, les bras.
Ah, mais c'est sûr, tu prends toujours les positions les plus faciles. À l'avance, c'est sûr. Tu vas pas te mettre dans la difficulté, Simon.
Si on pouvait établir un classement sur l'ensemble de la saison, je trouverais ça.
Simon, c'est. Ouais. Federer, ah mais c'est le plus grand joueur du monde. Léo Messi, ah mais ça part. Évidemment, si tu avais en prenant des positions molles comme tu prends toujours, tu vas jamais perdre. Hein.
En basket, j'aimais bien Michael Jordan, tu vois, par exemple.
Ok, Fabio Quartararo, Fabio Quartararo n'est plus dernier, enfin je crois. Paul Laffitte.
Avant dernier.
Avant-dernier, c'est à 8 tours de l'arrivée, la Bérézina pour le pilote Yama qui ne marquera pas de points cet après-midi en Thaïlande. Une course dominée par Miguel Oliveira du team KTM, drivé par Hervé Poncharal. La deuxième position pour Jack Miller. Et on retrouve en troisième position Pecco Bagnaia qui a dans son sillage Marc Marquez. Et si eh bien, Pecco Bagnaia arrivait à monter sur le podium, il reviendrait à 2 points seulement de Fabio Quartararo.
Paul, c'est quoi le problème de Quarta? Il ne s'est pas roulé sous la pluie ou sur les pistes humides?
Ben c'est compliqué, Christophe, parce que il avait quand même remporté lors de la course en Indonésie un podium, une deuxième place plus précisément.
Et c'était les mêmes situations, c'était les mêmes conditions.
Ouais, quasiment les mêmes conditions. Il s'est complètement raté au départ, Christophe, et vraisemblablement, bien beaucoup de pression sur les épaules du Niçois. Et donc cette
le Niçois normalement supporte très bien la pression. Tu le sais, Paul. Ouais, tu le sais. Ouais.
Et Marquez peut peut-être nous
aider. Il a le pain Bagnaia.
Ouais,
en plus.
Ouais, voilà. Enfin,
c'est vrai. Le pain.
C'est pas fini.
Ouais, c'est pas fini. Ouais, enfin, à 8 tours de l'arrivée, on va mal.
Non. Pour Quartararo en queue, c'est peut-être compliqué, mais imaginez Marquez là, qui est à la lutte pour le podium. Ça peut se terminer dans l'herbe.
Ok, on vérifiera tout ça. En tout cas, il reste 8 tours. On reviendra te voir, évidemment, Paul Lafitte, pour ce Grand Prix de Thaïlande. 11h27, l'anniversaire aujourd'hui de Marion Bartoli. Petit cadeau, c'était mieux avant. C'est sur elle, signé Christophe Cessieux. A tout de suite sur RMC.
RMC, les grandes gueules du sport. 9h midi.
Jean-Christophe Drouet.
11h32, de retour dans les grandes gueules du sport. Toujours avec Christophe Cessieux, Marion Bartoli, Simon Dutin. Marc Madiot à 11h30 le dimanche, c'est un moment que vous adorez, le C'était mieux avant de Christophe Cessieux qui nous compte un moment d'histoire.
Les GG.
Restez donc surtout en piste Fangio et Brooks. Mais Fangio devait l'emporter.
Les avant-français ressortent le grand jeu. Dwis en tête. Dwis, c'est le pelé de l'équipe française.
C'était mieux avant.
C'est l'anniversaire de Marion Bartoli. Marion, c'est une première dans l'histoire du C'était mieux avant. Un C'était mieux avant consacré à une GG. Est-ce que tu es prête?
Oui, je suis prête. Impatiente même.
6 juillet 2013, Marion Bartoli entre dans l'histoire du tennis français.
Si le mois de juillet à Londres n'est pas toujours l'assurance d'un temps radieux, en ce samedi 6 juillet 2013, le All England Lawn Tennis Club brille de mille feux. Les oiseaux chantent, le gazon est bien vert, les chapeaux des ladies rivalisent d'ingéniosité et les tenues des deux championnes qui s'engagent dans le couloir du Center Court sont, comme le veut la tradition, d'un blanc immaculé. Sabine Lisicki et Marion Bartoli, son adversaire pour cette finale du tournoi féminin, se connaissent bien. 2 ans plus tôt, sur ce même court, la jeune Allemande avait mis fin au rêve de la Française en quart de finale. Une bien mauvaise habitude au moment où elle entre sur le court. Marion n'a encore jamais trouvé la clé pour battre l'Allemande en 3 confrontations. Et ce tournoi de Wimbledon, Marion en rêve toutes les nuits ou presque. Depuis les années 90, les années Sampras, l'idole de Marion, vainqueur du tournoi à 7 reprises et dont elle possède une relique, un maillot de l'américain qui trône fièrement dans sa chambre d'ado, dans son petit village de Haute-Loire.
Voilà mon petit jardin secret, ma chambre. Je commence par le plus important pour moi, le t-shirt de Pete que j'ai pas lavé, que j'ai mis 6 mois à obtenir.
Et c'est en regardant son idole triompher sur le gazon londonien que la passion du tennis est apparue à Marion, qui décide alors de s'inscrire dans le club de Retournac, dont les cours jouxtent le cabinet de son père, le médecin du village. Marion n'est pas bien grande ni très puissante, mais elle compense son manque de muscles par une technique particulière. Robert Chambefort, le fondateur du tennis club de Retournac.
Comme elle n'était pas assez puissante par rapport aux autres élèves, elle tenait sa raquette à 2 mains. Toute petite, ce qui n'était pas chose courante à l'époque. Et donc, je pense qu'elle a conservé cette façon de jouer, bon, qui lui a réussi.
Une technique mise au point par son entraîneur de père, Walter, qui décide de quitter sa carrière de médecin pour se consacrer entièrement à l'entraînement de sa fille alors qu'il sait à peine taper dans une balle.
L'amélioration de son niveau de jeu et également de ses capacités physiques qui sont importantes, dont elle a besoin, nécessite un matériel qui lui est propre et donc des séances qui lui sont individualisées.
Mon père n'est absolument pas sportif, son sport favori c'est les échecs. Il n'aime pas faire d'activité physique lui-même, mais en revanche, son cerveau, il adore le faire fonctionner. Et effectivement, pour moi, c'était vraiment un soutien en permanence, parce que finalement, il ne me culpabilisait jamais de mes défaites. Et au contraire, il me disait qu'il avait systématiquement une solution pour me faire gagner. Et en plus, ça marchait.
Et ça marche si bien que la jeune Marion ne tarde pas à remporter ses premiers tournois chez les jeunes. En 2001, à 16 ans, elle remporte l'US Open Junior et se lance chez les pros. Les débuts seront compliqués, mais Bartoli, à force d'entraînement, chaque jour plus intense, s'accroche, passe du 100e au 17e rang mondial, intègre l'équipe de France de Fed Cup et remporte ses premiers tournois.
Mais Marion n'est pas encore une star, non. À l'époque, toute la lumière rayonne sur Amélie Mauresmo, numéro 1 mondial et vainqueur de Wimbledon en 2006. Pourtant, l'année d'après, la petite Marion va se révéler au grand public sur les cours de Roland-Garros.
La surprise est de taille, le bonheur immense. Cet après-midi à Roland-Garros, Marion Bartoli n'était pas franchement donnée favorite face à la Russe Elena Dementieva. Alors la Française s'est accrochée à sa raquette, elle s'est battue sur tous les points. Après un peu plus d'une heure de match, Marion Bartoli s'impose en 2-7, la voilà en huitième de finale, pour la première fois de sa carrière.
Je n'étais pas impressionnée ni par son niveau de jeu, ni par elle. Je savais qu'elle avait des faiblesses, je suis les exploiter, et donc voilà, j'espère au prochain tour faire la même chose.
Malheureusement, en huitième de finale, elle subit la loi de la numéro 3 mondiale, Jankovic, la Serbe, qu'elle retrouve quelques semaines plus tard à Wimbledon, où là, la donne va changer.
Et c'est fait ! La première balle de match est la bonne ! En 5 actes, Marion Bartoli vient de créer un exploit avec un E majuscule sur ce court numéro 1. Elle élimine l'une des grandes favorites, Jelena Jankovic, troisième joueuse mondiale. Marion Bartoli mérite bien l'ovation de ce court numéro 1.
Et la belle aventure se poursuit pour Marion qui, après avoir battu Krajicek en quart de finale, se retrouve devant une mission impossible, celle de battre Justine Henin, la numéro 1 mondiale. Oui, mais l'Auvergnate à la tête dure. Marion va alors se sublimer et faire mordre le gazon à la championne belge.
Un tremblement de terre sur le gazon. Marion Bartoli vient d'éliminer la numéro 1 mondiale. À 22 ans, la Française prive Justine Henin d'une nouvelle finale à Wimbledon. Bartoli, déjà meilleure Française à Roland-Garros, disputera demain sa première finale en Grand Chelem contre Venus Williams, un an après la victoire d'Amélie Mauresmo.
Une aventure qui s'achève le surlendemain sur le center court où Marion subit la loi de la reine du gazon, l'américaine Venus Williams, qui remporte là son quatrième British Open.
Ladies singles champion is Venus Williams.
C'est la fin d'un rêve pour Marion Bartoli. La jeune Française aura étonné tout au long du tournoi, mais c'est finalement Venus Williams qui remporte la finale de Wimbledon. Pour sa première finale dans un tournoi du Grand Chelem, Marion pense d'abord à son entraîneur, qui est aussi son papa.
Ce rêve a été possible grâce à une personne, mon père. Donc merci beaucoup, papa.
Un papa tellement indispensable qu'elle souhaite même l'avoir à ses côtés en équipe de France. Une demande que la Fédération Française de Tennis va repousser. Qu'à cela ne tienne, la Fed Cup se fera désormais sans Marion qui rejette la sélection. Le début d'un long feuilleton et d'un début de désamour entre le clan Bartoli et la France. Car si Marion est entrée dans le cœur des Anglais chez nous, elle n'est pas encore une star. Son manque de réussite à Roland-Garros explique en partie ce désintérêt qui va soudainement disparaître en 2011 lorsque la Française se décide enfin à briller sur la terre parisienne.
Côté sourire maintenant, eh bien c'est celui de Marion Bartoli qui a illuminé l'après-midi. Marion Bartoli qualifiée pour les demi-finales. C'est la première fois qu'une Française accède à ce stade du tournoi depuis Marie Pierce. Et elle est avec nous en direct. Alors vous dites ça y est, j'ai fait ce qu'il fallait, j'ai réussi ma saison, demi-finaliste à Roland-Garros.
Non.
Vous pensez à la victoire finale?
Je pense déjà à gagner ma demi-finale. Vous savez, j'ai déjà atteint la finale d'un tournoi du Grand Chelem à Wimbledon. Ici, c'est chez moi, c'est à Roland-Garros. J'ai tout le public pour moi en ce moment. Donc, j'ai qu'un seul objectif, c'est soulever le trophée samedi après-midi. Et je serais vraiment déçue si je n'y arrivais pas.
Oui, mais une fois de plus, la marche est trop haute pour Marion. Sèchement battue par l'italienne Schiavone, la finale se dérobe sous ses pieds.
C'est trop fort du côté de Francesca Schiavone. La belle aventure de Marion Bartoli va s'arrêter là.
Pour l'instant, c'est surtout la déception parce que j'avais vraiment envie de gagner ce match. Mais elle a tout simplement été plus forte que moi aujourd'hui et je pensais vraiment me servir pour l'avenir et pour encore progresser, revenir encore plus forte l'année prochaine.
Mais si la Coupe Suzanne Lenglen se refuse et se refusera toujours à Marion, un autre trophée encore plus prestigieux lui tend les bras. Ce samedi 6 juillet 2013, le Center Court est prêt à s'enflammer pour sa petite fiancée française. Un tournoi que Marion a dominé de la tête et de la raquette, ne concédant pas le moindre set à ses adversaires pour se hisser jusqu'en finale. Liziki, qui n'a encore jamais perdu contre Marion, ne va y voir que du blanc.
A fourth chance for Marion Bartoli to become Wimbledon champion.
The Queen of Wimbledon.
And who would have believed it?
Marion Bartoli,
Wimbledon. Marion Bartoli, championne de Wimbledon. Ça sonne bien, non? Honnêtement, je n'arrive pas à y croire. Pour moi, gagner Wimbledon sur un ice, même dans mes rêves les plus fous, je n'aurais pas pu l'imaginer. Juste quelques mots pour mon clan qui est juste derrière et pour le premier d'entre eux. Mon papa, sa présence ici aujourd'hui signifie tellement pour moi. Quand j'ai commencé mon parcours sur le court 14, je pense que si vous m'aviez dit que je serais ici aujourd'hui en finale, je ne l'aurais pas cru. Et j'espère que je serai encore là l'an prochain. Marion entre dans la légende et réalise son vœu le plus cher. L'avenir semble alors radieux pour la jeune femme. Un avenir qui va pourtant soudainement tourner vinaigre. 6 semaines après son exploit londonien, Marion fait une annonce surprenante.
Ce n'est jamais facile. Et bien sûr, ce n'est jamais le bon moment pour l'annoncer. Mais c'était en fait le dernier match de ma carrière. Et il est temps pour moi de prendre ma retraite.
J'ai joué depuis tellement d'années. J'ai tellement poussé mes entraînements, mes limites pour y arriver. Que voilà, je pense qu'on a tous une certaine capacité et qu'au-delà, après, on ne peut plus. Et c'est moi, j'ai atteint cette limite quand j'ai gagné ce Wimbledon.
À 28 ans, si elle tourne le dos à sa carrière de tenniswoman, Marion a bien d'autres rêves, la mode, les médias, mais aussi la découverte d'une vie sentimentale jusque-là plutôt limitée. Quelques mois plus tard, elle fait la connaissance d'un jeune homme bien sous tout rapport, mais qui va rapidement dévoiler sa véritable nature, celle d'un pervers narcissique qui va entraîner Marion au fond de l'abîme.
Sur un ton de l'humour un peu second degré, il me disait « Ah, mais tu sais, t'es un peu gras, mais tu sais, t'es un peu grosse. » Et puis, tous les éléments sur lesquels j'avais confiance en moi, il me les a enlevés. Même sur un terrain de tennis où j'avais l'impression d'avoir confiance en moi, il m'a même enlevé ça puisqu'il me disait comment je devais jouer au tennis alors qu'il était banquier. Je ne sais pas si on peut appeler ça du harcèlement, en tout cas une espèce de destruction mentale au quotidien, ça oui.
Marion tient, mais s'enfonce. Le régime draconien qu'elle s'impose pour plaire à son homme la pousse vers l'anorexie. Affaiblie, elle contracte un virus qui va la laisser aux portes de la mort.
En fait, j'ai commencé petit à petit, très graduellement, à plus pouvoir digérer certains aliments. À chaque fois que j'essayais de manger un aliment, je partais en crise de tachycardie. Je pouvais avoir alors ou des éruptions d'acné, ou j'avais mes genoux qui triplaient de volume, ou mes chevilles, ou mes poignets. Je ne pouvais plus non seulement ingérer quoi que ce soit, mais je devais m'allonger et dormir 3-4 heures jusqu'à que ça passe. Si j'avais pas eu l'acharnement, je pense, de mon père qui était médecin, je sais pas si honnêtement ça vaut vraiment la peine de continuer à vivre comme ça. Enfin, c'est peut-être mieux si tout s'arrête, quoi. Parce que c'est pas une vie.
Descendue à 41 kilos, Marion est méconnaissable et les photos de la championne, la peau sur les os, font froid dans le dos. Mais son mental de championne va finir par prendre le dessus. En 2016, après s'être débarrassée de son compagnon et de son virus, elle parvient enfin à reprendre quelques kilos. C'est alors qu'elle décide de se lancer un nouveau défi, celui de participer au marathon de New York. Le régime, cette fois, est salutaire.
Les derniers kilomètres se font au courage et au mental, soutenu par le regard de son père d'entraîneur. Après 5h40 de course, Marion Bartoli vient de se prouver qu'elle est plus que jamais en vie.
Une vie dont Marion va reprendre le contrôle et la championne, infatigable, voire même hyperactive, retrouve le moral et trouve l'amour, le vrai, avec Yaya, son footballeur de mari, puis avec Camilla, leur petite fille qui vient au monde en 2020. Si la championne a fermé la page de ses exploits, elle a fait place à une femme épanouie, une maman comblée, qui, après avoir tout gagné et beaucoup perdu, a gardé l'essentiel, sa joie de vivre, son franc-parler et l'envie irrépressible d'aller toujours de l'avant.
L'anniversaire de Marion Bartoli, le C'était mieux avant, préparé par Christophe Cessieux. Forcément, Marion, je viens te voir. Ton sentiment après avoir écouté cette séquence?
Je suis forcément ému.
Je vais te laisser reprendre tes esprits dans quelques instants. Simon Dutin, tu connaissais la vie de Marion, évidemment, tu connais la vie de toutes nos GG.
Évidemment, évidemment, et je me souviens devant ma télé, effectivement, de la finale de Wimbledon, effectivement. C'est
si je peux me permettre, et j'espère que Marion le prendra pas mal, peut-être la des trois Françaises qui ont remporté un grand chelem dans l'Air Open, celle qu'on attendait le moins, voire soulever un trophée majeur, parce que Marion, elle s'est battue pendant très longtemps sur le circuit avec des armes qui n'étaient pas, elle était fan de Pete Sampras. Je fais pas un jure à Marion pour dire qu'elle n'avait pas, peut-être pas à la base, le talent naturel d'un Pete Sampras. Mais quand tu bats Justine Hénin sur la route d'un grand chelem,
tu bats Serena aussi, Serena Williams,
c'est un exemple de volonté, de détermination, et qui, je pense, est à ce titre plus inspirant que celui des victoires, par exemple, d'Amélie Mauresmo, qu'on avait annoncé depuis le début de sa carrière. Et effectivement, aucun amateur de tennis n'oubliera jamais la victoire de Marion, ainsi que sa carrière et ces espèces de coups de rage, de conviction à deux mains. Effectivement, son premier entraîneur le rappelait, et qui illustrait voilà une rage de vaincre, que voilà, hors du commun.
Marion, ça va, tout va bien,
c'est, ouais,
c'est ton anniversaire.
Une petite réaction de faire pleurer Marion
de ta part.
Non, mais c'est des pleurs d'émotion, franchement. Encore une fois, Christophe, un immense merci pour cette séquence. Les sons que tu as ressortis, déjà, c'est beaucoup de travail, parce que c'était pas évident à trouver. Et tu m'as vraiment touché, donc un grand merci pour ça. Mais oui, bien sûr, tu l'as très bien raconté, ça a été fait de haut et de bas, ça a été fait de surtout beaucoup de volonté, de vouloir s'accrocher indéfiniment à quelque chose qui, pour moi, devait être mon destin, finalement, et devait être ce que je devais aller chercher, quoi qu'il arrive. Et finalement, j'ai jamais lâché cet objectif de vue. Et je crois que quand aujourd'hui on parle justement d'entraîneurs, de vals entraîneurs, etc., le plus important dans le sport, c'est de croire en sa destinée, en sa foi inébranlable d'y arriver. Et c'est toujours à cette espèce d'état d'esprit que je me suis raccrochée. Et quelles que soient les doses de travail que j'ai dû m'infliger pour y arriver, j'ai jamais lâché cet objectif de vue. Donc je crois que c'est surtout l'accomplissement de la volonté de réussir quoi qu'il arrive. Et si je peux essayer d'inspirer quelques jeunes à essayer de faire pareil aujourd'hui, ça sera déjà beaucoup pour moi. Et bien sûr, dans ma reconversion, c'est une vie totalement différente aujourd'hui, mais j'essaie d'être guidée quand même toujours par cette volonté de bien faire, cette volonté de s'appliquer, de travailler correctement et de m'amuser aussi avec vous. Voilà.
Moi, je trouve que le plus gros combat que tu as mené, que tu as gagné, il y a cette finale à Wimbledon, mais c'est l'après, surtout la dernière partie, évidemment, lorsque tu es vraiment très malade et que tu réussis à reprendre le contrôle de ta vie, alors que tu étais quand même au plus mal à ce moment-là. Et là, pour ça, rien que pour ça, chapeau. Chapeau Marion.
Chapeau
et santé
Marion.
Et santé Marion.
Et Marion, maintenant, fait les beaux jours des grandes gueules du sport et aussi de ton émission Bartoli Time, à retrouver tous les dimanches soirs à 19h. On sera ensemble, Marion, ce soir, à partir de 19h, le jour de ton anniversaire. On te fait beaucoup bosser, c'est normal.
Oui.
La moto GP, c'est le grand écart. MotoGP, c'est terminé avec une mauvaise place pour Fabio Quartararo. Ça se confirme, Paul Lafitte.
Oui, je sais, une course à oublier pour le Français qui termine 17e, qui ne marque pas de points. Un Grand Prix emporté par Miguel Oliveira devant Jacques Miller et Pecco Bagnaia. Et au classement du championnat du monde, alors qu'il reste désormais 3 courses d'ici à la fin de la saison, eh bien Pecco Bagnaia est revenu à seulement 2 petits points de Fabio Quartararo. Alex Espargaro est revenu à lui 20 points du pilote français. Et Enea Bastani est lui aussi en course. Il revient à 39 points, autant dire que rien n'est joué. Il reste 75 points à distribuer d'ici à la fin de la saison. Et donc le leader du championnat, Fabio Quartararo, n'a plus que 2 petites unités d'avance sur Pecco Bagnaia. Le suspense est donc relancé. JC, rendez-vous à Phillip Island. Ce sera le 16 octobre pour la 18e manche de ce championnat du monde.
Ouais, c'est dans 2 semaines.
Christophe nous la raconte un jour dans C'était mieux avant celle-ci. Hein.
Merci Paul Lafitte. Ça risque d'être compliqué pour Fabio Quartararo. Toujours leader en tout cas. On revient dans quelques instants avec Xavier.
Je vais m'occuper de Marc Madiot bientôt.
Bien sûr. Xavier.
Tu raconteras mon triplé contre les copains au tournoi débutant de l'Arnaque un jour aussi.
S'il vous plaît, les copains, Xavier nous attend au 32-16. Il veut vous parler. Il est en colère contre vous par rapport aux écrans géants dans les villes françaises qui devraient être retirés pour la Coupe du Monde. Il n'est pas du tout d'accord avec votre point de vue. À tout de suite sur RMC.
RMC, 9h midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
11h53, la dernière ligne droite des grandes gueules du sport à partir de midi. Les paris RMC, notamment autour de la rencontre Lens-Lyon. Mais tout de suite, c'est à vous de jouer, les auditeurs.
RMC,
les grandes gueules du sport et vous.
Xavier nous appelle au 32-16. Bonjour Xavier.
Bonjour à tous.
Salut Xavier.
Merci d'être avec nous, Xavier. Xavier, tu veux t'occuper de qui ce matin ?
Oh, de toutes les grandes gueules.
Ah oui, j'adore ça. Oh, j'adore. Vas-y, dis-leur.
Alors, je voudrais juste d'abord souhaiter un bon anniversaire à Marion qui nous a fait vibrer en tant que tenniswoman, et qui nous passionne aujourd'hui sur RMC. Donc, bon anniversaire.
Merci beaucoup. Voilà. C'est gentil. Merci.
Bon, maintenant, tu peux y aller.
Voilà. Donc, je vais y aller. Je comprends pas bien la position unanime des grandes gueules sur la position de nos hommes et femmes politiques sur l'installation des écrans géants pour suivre la Coupe du Monde. Ça fait quand même deux Coupes du Monde que la FIFA confie l'organisation à des pays autocratiques qui font fi des droits de l'homme et de l'écologie. Aujourd'hui, on ne peut plus rien faire. Et je trouve la position des hommes politiques plutôt courageuse et symbolique. Aujourd'hui, il faut quand même faire quelque chose et dire à la FIFA et au monde du sport, stop aux frics et faisons attention un petit peu aux gens qui travaillent et à l'écologie. Donc même si c'est symbolique, je trouve qu'il faut mettre un coup d'arrêt à tout ça. Et quoi de mieux que d'essayer de ne pas diffuser la Coupe du Monde pour qu'il y ait moins de rentrées publicitaires et que les diffuseurs disent à la FIFA stop maintenant, faisons un petit peu attention aux droits de l'homme et à l'écologie. Et je voudrais également rajouter, j'espère que cette Coupe du Monde qui va diffuser sur TF1, sur RMC, on va pouvoir en profiter aussi pour avoir des débats un peu autres que sportifs et revenir sur le scandale des trajets en avion pour les supporters, parce qu'il y a un parc hôtelier qui n'est pas suffisant au Qatar, et donc les supporters vont être logés dans d'autres pays, ils vont prendre l'avion pour venir voir les matchs, des stades climatisés, des morts, même s'il y a un débat. J'espère que RMC.
En tout cas, Xavier, moi je réponds à ça depuis quelques semaines, voire quelques mois. On en parle souvent et régulièrement dans les grandes gueules du sport.
Pendant la Coupe du Monde,
pendant la compétition, certainement, peut-être que le sportif va prendre plus le pas là-dessus. Mais c'est vrai que, en tout cas, le temps qui nous est offert avant la Coupe du Monde, c'est vrai qu'on en parle, mais pas uniquement ici. Hein, je pense que la plupart des médias français en parlent aussi. Vous voulez répondre à... Je te sentais tiquer, Simon.
Non, je voulais répondre à Xavier. Je ne tique pas, mais j'ai envie de répondre à Xavier que j'imagine qu'à la régie pub de la FIFA, on doit trembler. On se dit, ah merde, Martine Aubry, elle diffusera pas sur grand écran, le prix de la pub va baisser. Non mais, faut être sérieux, Xavier, je suis désolé, Martine Aubry, elle a été ministre pendant plusieurs années d'un gouvernement d'un grand pays comme la France. Elle avait qu'à sortir du bois avant, en disant je trouverais ça scandaleux que la France aille disputer ce mondial. Bon, là, interdire les écrans géants. Éventuellement, tu nous vends ça sur le fond de sobriété énergétique, et j'achète, à la rigueur. Voilà, pas d'électricité, pas de grand barouf à Lille. Mais faut arrêter les bêtises. De qui se moque-t-on?
Ok, rapidement, Marc.
Ouais, très rapidement, le vrai courage des politiques français, ce serait de retirer l'équipe de France des prochains championnats du monde, de la prochaine Coupe du Monde.
Ok.
Ça, ce serait courageux.
Ok.
Très bien. À ce moment-là, tu choisis également un équipementier qui ne fait pas bosser des gamins pour produire ses maillots à $1 par mois. Au bout
okay, on va pas tout. Tu arrêtes d'organiser les Jeux Olympiques en 2024, parce que là aussi, franchement, c'est pas très écolo, éco-responsable.
On va pas tout mettre sur le même rayon, évidemment.
Paris, beaucoup de béton.
Je reprends la main. Ouais. Merci beaucoup, Xavier, d'avoir été avec nous, et tu as pu exprimer évidemment ta colère envers nos GG. Moi aussi, je suis en colère contre eux. Pas du tout. Christophe Cessieux, Marion Bartoli, merci beaucoup. Simon Dutin,
merci.
Marc Madiot, bravo pour cette émission. Merci à vous, les auditeurs. Je remercie également Maxime Abolin à la production, Alban Azaïs à la réalisation, et Camailleux à la liquidation. 11h57, oh, je vous embrasse. Oh. Et les Paris RMC pour quelques instants.
C'est pas joli, ça.
Les Paris RMC.